Quel est le premier commandement ? Le premier commandement, vous l'avez dans l'Ancien Testament, c'est écoute. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoutez. Et pour faire allusion à une tradition qui nous est peut-être plus proche, les premières lettres, les premiers mots de la règle de Saint Benoît, c'est « Écoute, mon fils, les enseignements de ton père. Écoutez. » Pourquoi je fais cette allusion à ton premier commandement qu'à la règle de Saint Benoît ? Parce que nous sommes face à un homme, vous le savez, Jean-Baptiste et cette grande figure avec la Vierge Marie, deux temps de l'Avent, qui se définit de façon un peu curieuse. Il se définit comme une voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Je suis la voix. Je trouve ça beau de se définir comme une voix. Juste une parole. Une parole qui est lancée et qui, en face, va être accueillie ou pas, va être écoutée ou pas. Parce que pour écouter, vous le savez, ça demande de se déplacer intérieurement. Ça demande d'être attentif, d'être vraiment à l'écoute de celui qui parle. Et le fait d'être la voix, c'est aussi rentrer dans une certaine vulnérabilité, fragilité. Quand on parle dans la prédication, par exemple, c'est aussi, on profère une voix, mais est-ce que cette voix-là, elle s'estompe une fois dite ? Ces mots-là rentrent ensuite dans l'anonymat, après avoir été proclamés. Être une voix, c'est juste accepter une fragilité. Et que, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'entends ? Et c'est comme ça que l'Évangile nous est transmis. C'est comme ça que l'Évangile nous est transmis. Par la voix. Par la prédication. Vous savez, cette parole de Saint Paul, la foi rentre par l'oreille. Je ne sais pas si vous avez rappelé cette parole de Saint Paul assez étonnante. Fides ex auditu. La foi rentre par l'oreille. Parce qu'au fond, dans les cinq sens que nous avons, le toucher, le fait de goûter, le fait de voir, etc., le fait d'entendre, c'est un sens très particulier parce que c'est le sens qui forme en nous l'art d'être disciple. L'art d'être disciple, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute d'autres que moi, de se mettre à l'écoute, de faire que son intelligence et son cœur puissent prendre un autre chemin potentiellement. C'est ça être disciple. Et c'est par la prédication d'autres que nous avons entendus que nous sommes ici, par le témoignage. La prédication, c'est quelque chose de très beau, mais qui à la fois demande une grande simplicité de la part de celui qui parle, parce que ça lui échappe, verba volant, comme on dit, les paroles s'envolent. Et donc, c'est chacun, à la fois celui qui écoute et celui qui parle, est mis dans une forme de simplicité, d'humilité. Et surtout, ça fait écho à ce qu'on entend dans le livre d'Isaïe. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit m'a consacré par l'onction. Donc, on est envoyé à guérir les cœurs brisés, à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à la délivrance aux captifs, à aller dans des situations, au fond, qui ne nous sont pas habituelles, à sortir de notre zone de confort. Et c'est ça le fait d'écouter, c'est sortir de sa zone de confort, aller vers un ailleurs, se laisser déplacer, comme aussi, si on veut être témoin de Jésus, on va aller dans des situations où on va être une voix, mais qui peut-être ne va pas être entendue, voire être contestée. On le sait bien, la voix de l'Évangile, aujourd'hui, est contestée, c'est évident. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne doit pas être proclamée. Et parce qu'elle est proclamée, Et parce que j'accepte de me mettre dans des situations inconfortables, dans la prédication, dans le témoignage. Alors il y a la prédication, on pense tout de suite, bon, à la prédication durant la messe, mais dans les sacrements, mais la prédication, il y a des tas de lieux de prédication, il y a des frères qui sont très fans d'évangélisation dans les rues, donc il y a certains qui prêchent comme ça dans les rues, et voilà, voilà, c'est la prédication, c'est dans une retraite, il y a tas de lieux de prédication, de paroles, d'occasion d'être une voix. Et puis, plus modestement, dans votre vie quotidienne, avec les collègues, dans la famille, etc., dire une parole, c'est déjà prêcher. Dire une parole qui n'était peut-être pas attendue, c'est déjà renvoyer à un ailleurs, par exemple. Un de vos collègues de travail, ou amis, ou famille, a un décès dans sa famille, vous êtes au courant, ben, au lieu de dire « je pense à toi », je dis « je prie pour toi ». C'est pas pareil. Parce que la pensée ne nous a jamais sauvés. La prière apporte le salut. Mais cette voix-là, cette parole-là, il y a des paroles qui sont clés dans nos vies. Des paroles qui nous ont mises debout, des paroles aussi qui nous ont cassées. Mais nous faisons mémoire de ces paroles qui nous ont soutenus, qui nous ont été un soutien, été une annonce. Plus que vous ne le croyez, chers amis, plus que vous le croyez, votre parole est attendue. Parce que c'est le christianisme, c'est ça, c'est par la parole qu'il nous est transmis. L'amour de Jésus, c'est pas uniquement par les témoignages. Les évangiles, de fait, sont des témoignages. Il y en a quatre, et l'évangile de Jean, voilà, ne dit pas la même chose que celui de Marc ou de Matthieu ou de Luc, hein, chacun ayant eu son expérience de Jésus différente. Donc, intéressant de dire, au fond, nous sommes attendus par une parole, il y a tant de paroles qui sont professées aujourd'hui, qui ne tirent pas vers le haut. Et nous, nous sommes les héritiers d'une parole qui élève. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert, redressez les chemins du Seigneur. C'est, je trouve ça très beau, cette vocation de Jean-Baptiste, parce que précisément, il est là, il est totalement abandonné, parce qu'il sait très bien, il est face à lui d'une autorité religieuse, hein, reconnue, et lorsqu'on envoie les prêtres et les lévites pour pouvoir le confronter, parce que les gens se précipitaient pour être baptisés dans l'eau, etc. Et lui, il se définit comme une voix. Alors pour nous, je trouve que ce temps de l'Avent, c'est un temps de conversion, vous le savez, et c'est un temps de conversion parce que c'est un temps qui nous est, où nous sommes invités à nous laisser décaler, à nous laisser, à rentrer dans un inconfort, à rentrer dans des lieux où nous ne sommes pas habitués à aller. Le pape François parlerait des périphéries, vous savez, ça lui est très cher à son cœur, dire que, attention à l'entre-soi, etc. Il a raison, plus que nous le croyons, notre parole est attendue. L'évangile est attendu. Beaucoup plus que nous le croyons, nous n'avons peut-être pas assez confiance, foi dans la parole, dans la puissance de l'évangile. Rien que cette parole de l'évangile porte en elle-même, parce qu'elle est mue par le Saint-Esprit, porte en elle-même une puissance et un pouvoir de transformation. Vous voyez, je trouve que... Et du coup, on comprend bien que le premier commandement, c'est écoute. Parce que précisément, écouter, c'est déjà rentrer dans une autre logique. Écouter, c'est déjà être se mettre dans une attention, déjà un respect. Oui, je pense que le Seigneur nous demande d'être attentif, et ça demande une grande humilité de professer une parole selon l'Évangile. Et on voit bien, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Voilà. Rien que de dire une parole comme ça, c'est quand même pas évident. Se tient au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut paraître un peu zinzin quoi, de dire ça, parce que bon, face aux autorités religieuses de l'époque, etc., je viens derrière lui, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Évidemment, nous pensons à Jésus au lavement des pieds. Au fond, le fait d'être une voix, c'est rentrer dans une humilité. C'est s'abaisser, c'est faire confiance, c'est se laisser dépouiller. Le fait de prêcher l'évangile, quelles que soient les circonstances, il y a les sacrements, mais il y a, comme je vous l'ai dit, plein de circonstances, plein de lieux où prêcher l'évangile, on lâche quelque chose qui ne nous appartient plus après. Mais nous avons confiance dans cette parole que le Seigneur nous donne, cette parole-là qui porte en elle-même un pouvoir, ce qu'on appelle une parole performative. C'est un mot un petit peu compliqué, etc. De même, quand je vais dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, quand je dis ça, ça agit, ça acte le fait que ce soit le corps et le sang du Seigneur. Nous croyons que la parole de l'Évangile, c'est une parole qui accomplit ce qu'elle dit. C'est une parole qui demande la foi et qui en même temps l'apporte. La foi vient par l'oreille. Alors je trouve que c'est peut-être dans cette dernière ligne droite avant Noël, c'est l'invitation de nous mettre en chemin pour être des témoins. Pour être des témoins dans un monde de plus en plus sécularisé, dans nos sociétés occidentales, d'un monde où on met le Seigneur beaucoup de côté, comme nous le savons. Il semblerait que plus personne ne s'intéresse à l'Évangile. On semblerait que ce soit un peu une sorte de désaffection. Le Seigneur nous dit, non, cette parole-là, aujourd'hui, elle est encore valable. C'est un regain de confiance auquel le Seigneur nous appelle. Un regain de confiance, un regain de foi dans la puissance de sa parole. Qui ne nous appartient pas, les fruits ne nous appartiennent pas. Quand vous avez témoigné dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'études, vous avez témoigné du Seigneur, ça ne vous appartient pas après. On a obligation de moyens, on n'a pas obligation de résultats. Heureusement, parce que c'est le Seigneur lui-même qui donne la fécondité à nos vies, qui fait que le blé va pouvoir pousser et donner du sang pour un. C'est ça la fécondité de nos vies au fond. Évidemment, on va vers le mystère de Noël qui est par définition un mystère de fécondité, c'est une naissance. Et je trouve la fécondité de la vie de Jean-Baptiste qui est une vie tellement extraordinaire, tellement hors norme, parce qu'il est le précurseur évidemment, etc., mais tellement humble aussi. Alors qu'il avait des tas de personnes qui venaient autour de lui, etc. C'était quelqu'un qui attirait les foules. Voilà, moi je ne suis même pas digne de délacer la courroie de ses sandales. C'est beau comme vie. C'est beau de vivre ainsi. Dépendant complètement de la parole d'un autre. D'être juste la voix de celui qui est le Verbe. Le Verbe de Dieu, celui qui dit Dieu, il a besoin d'une voix. Alors oui, c'est la fécondité de nos vies d'avoir cette audace, de sortir de notre zone de confort, de cesser de nous auto-inhiber. Parce que parfois, le reproche qu'on pourrait faire à nous, disciples de Jésus, c'est de ne pas en faire suffisamment. D'autres religions, etc., sont plus des... disent qui elles sont, Nous, non. Nous, non, on n'ose pas, Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas au rendez-vous de la fécondité de nos vies, par ce manque d'audace, par cette manque de magnanimité, par cette pusillanimité, ce manque de courage de professer une parole. Alors on va demander cette grâce particulièrement au Seigneur d'être audacieux dans le témoignage, d'habiter les lieux où personne ne veut habiter, les lieux dont parle le prophète Isaïe, d'habiter auprès de gens qui ont le cœur blessé, qui sont captifs, qui sont prisonniers de tant de choses, apporter dans ces circonstances-là une parole qui est à la fois une bénédiction accordée par le Seigneur. Amen.